reprendre nos travaux de l'après-midi. Travaux de l'après-midi qui vont démarrer avec une intervention de Aimé Marsayan sur la collectivisation libertaire en Espagne, Andalousie, Catalogne, Aragon. Voilà, donc bien sûr, on débattra par la suite.
Bien. Il serait difficile pour moi de ne pas évoquer ici, au LAP, le souvenir de Jean-Luc Roubier, qui a été prof, avec qui, comme avec tant d'autres, j'ai partagé des années d'engagement. Dans l'affiche de présentation de ce colloque, l'Espagne est illustrée par une affiche du syndicat CNT des coiffeurs, des barbiers plutôt, de Barcelone. Dans les années 30 du XXe siècle, l'échoppe du barbier était un lieu de socialisation et échange. Il participait de l'idée de réseau, finalement bien plus social que ceux d'aujourd'hui. Pas étonnant donc que les libertaires de la CNT y aient été très implantés. Aussi irons-nous d'abord dans un salon de coiffure, dans le salon de coiffure de Ramon Celma. Ça se passe le 26 juillet 1936. Nous sommes à Calanda, une ville de quelques 5000 habitants, dans la province de Teruel, en Aragon. Ce 26 juillet, la situation est suspendue à Calanda. Suspendue entre deux Espagnes, entre deux mondes. Une semaine avant, le 19 juillet, lorsque le soulèvement des militaires contre la République a été connu, les entrées et sorties de la ville ont été barricadées et défendues avec un vrai fusil et quelques escopettes. Trois jours plus tard, le 22 juillet, trois camions bâchés, drapeaux rouges et noirs au vent, se présentent sur la place. Mais ce sont des phalangistes venus de Saragosse en armes. Ils s'emparent de la ville et procèdent à 200 arrestations. Des libertaires, surtout, puisque la CNT, à ce moment-là, compte environ 700 adhérents, ce qui est intéressant par rapport à une population de 5000 personnes, et puis des républicains aussi. Mais le 26, ils ne sont plus là. Après le 19 juillet, victorieux à Barcelone, des milices sont parties vers l'Aragon et elles les obligent à fuir, embarquant avec eux quelques réactionnaires et gros bourgeois. Et ce même 26 juillet 1936, vers 3 heures de l'après-midi, des milices de Catalogne sont là. Elles s'emparent du maire qu'ont imposé les fascistes et d'une trentaine d'autres personnes qui seront fusillées plus tard à Alcañiz. Alors on entend déjà le discours. Ah, ces anarchistes, des assassins violents, révolution à la pointe des fusils, dictature, c'est les discours qu'on entend habituellement. Ben, sauf que non, ça ne marche pas. Il se trouve que la colonne qui libère Calanda, c'est la milice Macià Companys. Ce sont des catalanistes, plutôt petits bourgeois, de gauche certes, mais petits bourgeois. Soit dit en passant, la légende noire de l'anarchisme espagnol, même s'il faut se garer dès des mouvements de balanciers, est en train d'en prendre un sérieux coup dans l'actualité. Il y a des révisions déchirantes. Dans l'affaire de Puigcerdà, par exemple, Agustín Guillamón a développé une argumentation et a apporté des preuves, comme quoi c'était là encore des crimes qui ont eu lieu, hein, il ne faut pas le nier. Et que les anarchistes en ont commis, bien sûr. Mais il se trouve que cette affaire de Puigcerdà, ben, c'était aussi des catalanistes. Alors, 48 heures après le départ des milices, qui poursuivent leur progression en direction de Saragosse, et alors qu'il n'y a plus aucune autorité administrative à Calanda, ni municipalité, ni province, ni État, il n'y a non plus aucune force répressive. À ce moment-là, se produit une réunion de la population sur la place centrale. Deux décisions sont prises. Un, proclamation du communisme libertaire. Deux, nomination du comité révolutionnaire, qui va être composé de 8 membres, 6 de la CNT et 2 de la gauche républicaine, le grand parti républicain, celui du président de la République, Manuel Azaña. Les deux républicains sont désapprouvés par leur parti, parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire de s'embarquer avec des vilains ? Il n'empêche que tous deux seront fusillés par Franco. Hein. Le témoin que nous avons connu, qui était dans le salon de coiffure de Ramon Thelma, eh bien, c'est Miguel Thelma, c'est son petit frère. Et il raconte que cette histoire, la proclamation du communisme libertaire et la nomination du comité révolutionnaire, ça s'est fait en un quart d'heure. Je pense que c'était peut-être un peu plus. Mais enfin, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un extraordinaire élan. Alors, communisme libertaire, au-delà des grands mots, des formules toutes faites, quelle réalité de terrain ça a à Calanda ? La situation de départ est la suivante. Calanda, donc, c'est une ville de 5000 habitants, province de Teruel, des terres plutôt riches. Il y a des grands propriétaires. L'homme le plus caractéristique, c'est le comte de Fortorn, qui est marquis par ailleurs. Il y a les régisseurs qui occupent les propriétés et les propriétaires ne sont pas là. Ils vivent ailleurs, ils vivent sur la côte atlantique, ils vivent à Madrid, ils vivent ailleurs. Alors il y a Fortorn. Et puis il y a quelqu'un qu'on connaît bien, c'est la famille Buñuel, la famille du cinéaste Buñuel. Alors eux non plus, ils ne vivent pas là, mais ils ont une superbe villa au bord de la rivière, le Guadalope. Les grands propriétaires, le marquis de Valdeguerrero, les jours de fête, ils se déplacent en carrosse. Comme les Buñuel sont des modernes, ils se déplacent en Cadillac. Et quand ils arrivent au village, ils klaxonnent pour que tout le monde sache qu'ils sont là quand même. C'est pas pour rien. Et Miguel Thelma dit, il a une phrase très intéressante, il dit, c'était des gens qui avaient une colonie, et cette colonie s'appelait Calanda. À côté de ces grands propriétaires, il y a leurs employés, les régisseurs, etc. Il y a des petits propriétaires terriens, des propriétés familiales. Il y a également des petites industries, des mécaniciens, etc., et des services. Il y a en particulier 5 barbiers. 2 sont plutôt de droite. 2 sont neutres. 1 est plutôt favorable à la CNT. Et il y a en plus un salon de coiffure pour dames. Alors c'est logique qu'il y en ait moins pour les dames, parce qu'elles se rasent moins souvent que les hommes. C'est pour ça que je disais barbier, les hommes à l'époque se font raser une fois ou deux par semaine, et d'ailleurs c'est en fonction de ça qu'ils payent. Ils payent le barbier, et ils ont droit de venir une ou deux fois par semaine, ils choisissent les jours après. Ça c'est la situation de départ. Et puis il y a cette proclamation du communisme libertaire, et alors là, voilà la situation d'arrivée. Tout devient collectif. Commun, communiste, communiste libertaire. Disparition de la propriété privée. Alors, il faut s'arrêter un petit peu. Parce que disparition de la propriété privée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on s'empare des terres, des gens qui exploitent des gens pour les exploiter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tous les propriétaires individuels, ces petits propriétaires familles, peuvent se joindre à la collectivité. Et puis, il y a ceux qui ne veulent absolument pas, ils veulent rester tout seuls. Et bien, ceux-là, on dit, d'accord, vous restez tout seuls. Sur les 5000 habitants de Calanda, il y a 10 ou 12 familles qui veulent continuer à travailler seules leurs terres. Ça veut dire que l'immense majorité des petits propriétaires terriens apportent leurs terres, leurs outils, etc., et se joignent à la collectivité. En revanche, à ces petits propriétaires, on leur explique l'économie est de tous. Il ne s'agit pas de capitaliser, vous pouvez produire pour vous, pour vos biens, mais capitaliser, ce ne sera pas possible. Et on va voir quelle forme ça prend. Production et consommation. Alors, il y a une forme de comptabilité statistique. On s'est emparé de l'église à Calanda pour en faire le grand magasin des marchandises. Ce grand magasin de marchandises, il comptabilise ce qui entre, c'est-à-dire que les producteurs qui récoltent des olives, du blé, etc., apportent ce qu'ils ont produit. Cette entrée est comptabilisée, mais elle n'est pas nominative, c'est-à-dire qu'on ne signale pas qui a apporté quoi. Et alors, les gens expliquent, ils disent non, parce que si on note qui a apporté quoi, il y aura toujours quelqu'un pour dire « mais moi j'ai travaillé davantage, je mérite davantage, etc. » Non, chacun apporte ce qu'il a produit, de chacun selon ses forces. En revanche, les sorties, quand il faut distribuer, je ne sais pas moi, les pois chiches ou l'huile, ben là, ça devient nominatif, parce qu'il faut qu'il y ait une égalité dans la distribution. Alors on est quand même au fin fond de l'Aragon, hein, ce n'est pas sur une route nationale importante, Calanda. La première observation qu'on peut faire, c'est que les choses sont quand même réfléchies. Hein. Cette histoire que les entrées ne sont pas nominatives, ça entraîne une conséquence. Miguel Thel m'a dit, à Calanda, il y avait deux feignants, deux types qui ne voulaient pas travailler. Eh bien, ils ne travaillaient pas. Personne ne leur a rien dit. Ils ne travaillaient pas. Mais ils avaient le droit de vivre. Donc, ils avaient le droit à la même ration de pois chiches que n'importe qui. C'est assez intéressant, ça. Mais c'est les conséquences d'une décision de départ dont on voit qu'elle est forte, quoi. Alors, du coup, il y a évidemment un refus de la notion de rentabilité. Et quand la CNT, qui a beaucoup dérivé durant cette période, va faire en janvier 1938 un congrès économique à Valence, à Calanda, ils vont en refuser toutes les décisions. Parce que le problème pour le congrès économique de Valence, c'était d'obtenir la rentabilité. Alors, il y avait plein de bonnes raisons. Il fallait mener la guerre, il fallait que les usines d'armement fonctionnent à fond. Tout ça, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'à Calanda, ils ont dit, ben non, ça ne nous convient pas. Revenons aux barbiers. Mais du coup, les 5 barbiers, les 2 plutôt de droite, les 2 neutres, ils se sont réunis, ils ont fait un grand salon avec 12 fauteuils, dans lesquels se sont retrouvés les patrons et les employés, ensemble, et tous avaient droit à leur ration de pois chiches. Et la différence, c'est que c'était gratuit désormais, entièrement gratuit. Le salon de femmes a continué, c'était gratuit. D'ailleurs, Pilar Soler La Pinta, qui était celle qui s'occupait du salon de femmes, a été tué par les fascistes en 1939 à coups de bâton et de couteau. Son mari aussi. Maintenant, les échanges. Eh bien, pour les échanges, la collectivité va d'emblée choisir le troc. Puisqu'il n'y a pas de circulation monétaire, tout est gratuit, eh bien, on va continuer et on va amplifier la chose avec les besoins. Par exemple, dans le village, il n'y a pas d'industrie de la chaussure. Or, il faut des chaussures, parce que les enfants grandissent et parce qu'on en use les semelles. En revanche, à Valence, et Calanda n'est pas très loin de la région de Valence, c'est une région de production de chaussures, où il y a d'énormes collectivités de fabrication de chaussures. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent contact. Ils disent, vous n'auriez pas besoin de pois chiches, des fois? Ou d'huile? Ou de pommes de terre? Bah, les autres, oui. Dans les villes, tout cela manquait. Mais ils disent, bah, nous, on vous envoie quelques charrettes de légumes et vous nous envoyez les paires de chaussures dont on a besoin. Ça a marché comme ça. Il y a un exemple encore plus fort. Les paysans, là, de Calanda, se fournissaient en engrais auprès d'une énorme entreprise qui s'appelle Cross, C-R-O-S. Une énorme entreprise qui a des usines un peu partout. Certaines vont rester du côté républicain, d'autres du côté franquiste. Celles qui sont du côté républicain sont collectivisées. Il y en a une dans la banlieue de Barcelone, j'en parlerai tout à l'heure, elle est collectivisée. La collectivité de Calanda se dit « Ah, là, il va falloir, on va labourer, il va falloir de l'engrais. » Donc, on va demander de l'engrais à Cross. Même démarche. Est-ce que vous voulez des légumes, etc., ou de la nourriture? Oui. Et donc, d'un côté, on envoie de l'engrais, de l'autre, on envoie des légumes. Même chose avec les unités militaires. Les unités militaires, elles ont peu de pois chiches, mais elles ont beaucoup de faillots. Elles en ont marre, elles ne sont pas très loin. On dit, ben, si vous voulez, on échange une cargaison de pois chiches contre une cargaison de faillots. Et ça se fait comme ça. Et du coup, on voit apparaître une notion qui est importante, c'est celle de l'extrême frugalité des gens. C'est-à-dire que on est dans cette société de Calanda, dans une société qui n'a même pas l'idée de demander le superflu, qui se contente de l'essentiel. Je dis cela parce qu'on dit que l'argent a disparu à Calanda. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ils ont une réserve d'argent. Et donc, il est prévu que les gens qui voudraient faire des achats en dehors du secteur collectivisé puissent demander une somme. Le problème, c'est que personne ne le demande. Les seuls achats à l'extérieur se sont faits, on le verra, autour de l'achat de 2 tracteurs et de 2 batteuses. Il n'y en avait pas à Calanda. Il n'y en avait pas, parce que les grands patrons s'en foutaient, ils avaient de la main-d'œuvre bon cher, bon marché, et puis les autres étaient trop pauvres pour avoir un tracteur. Quand on accumule toutes les possibilités, c'est bien différent. Et dans ce cas, on peut s'acheter 2 tracteurs pour la collectivité. Quand il est retourné à Calanda dans les années 80, après la mort de Franco, Miguel Thelma a été effaré. Il y avait 155 tracteurs à Calanda. Il dit, mais c'est de la folie. Les terres ne se sont pas... on n'a pas conquis de nouvelles terres, c'est les mêmes. Avec 2 tracteurs, on faisait tout le travail. Oui, mais maintenant, on va acheter le journal ou les cigarettes avec le tracteur de 200 chevaux. C'est ça. Et le reste du temps, il est dans un hangar ou devant la maison pour que les voisins sachent qu'on est puissant, etc. Il y a donc un aspect très important qui est celui de la frugalité. Comment sont prises les décisions? Elles sont prises en assemblée, petites ou grandes, en fonction du problème à résoudre. Alors, ce n'est pas des problèmes théoriques, c'est toujours des problèmes pratiques qu'ils ont à résoudre. Tout le monde peut en intervenir, mais il y a 5 000 habitants. Alors, ce qui est clair, c'est qu'ils ne font pas des assemblées de 5 000 habitants. En fonction des sujets, eh bien, ceux qui sont intéressés par ce sujet y vont, et puis on décide de manière horizontale de telle orientation ou telle autre dans tel secteur. Et quand il le faut, puisque la production a été organisée en groupe, autour de 8, quoi, de 6 à 10 personnes, eh bien, et c'est que ce groupe a un délégué, eh bien, ils font des réunions également de délégués pour décider si on commence, par où on commence la cueillette des olives, par exemple. Tout cela nécessite une éthique, une morale, la volonté de convaincre par l'exemple. Et il y a un petit fait qui est étonnant. on est en guerre. Hein. Et donc, il y a en 300, 350 hommes de Kalanda qui sont sur les fronts, dans des unités en général homogènes. Et à ce moment-là se pose le problème. Est-ce qu'on leur envoie de la nourriture aux habitants du village qui sont sur les fronts? Et c'est quand même assez terrible. L'Assemblée refuse. Ah non, ce serait rompre l'égalité. Si on envoie sur les fronts, c'est pour les habitants de Kalanda et pour les autres. Il y a donc une démarche extrêmement volontariste. Alors maintenant, à l'épreuve de l'espace, ça, parce que je vous ai dit que Kalanda est une ville assez riche. À côté, il y a une autre ville qui s'appelle Pancrudo, qui est très pauvre, mais alors très très pauvre. Et en général, là c'est la plaine, mais c'est entouré de montagnes, les villages de la montagne sont très pauvres. Alors, voyant que la collectivité de Pancrudo est très pauvre, Kalanda décide de l'inclure dans son plan de répartition, si bien que les habitants de Kalanda peuvent venir se fournir à Kalanda comme s'ils y habitaient. Par ailleurs, les gens, les familles, eh bien, élevaient un ou deux porcs pour leur consommation personnelle. Mais c'était embêtant à Kalanda, parce que ça obligeait à avoir des réserves et à utiliser la terre simplement pour nourrir les cochons. Et bien, du coup, ils ont procédé à un échange. Ils ont livré leurs cochons dans les villages de la montagne où ils pouvaient manger des glands. Et en revanche, ils ont consacré les terres destinées à nourrir les cochons à produire de l'alimentation humaine qu'ils pouvaient fournir aux villages de la montagne. Alors ça se fait comme ça. Ça se fait de gré à gré. Hein. Il faut dire que Pancrudo était également collectivisé. Hein. C'est un mouvement extrêmement vaste. Après, ils s'occupent de fédérer. Je vous ai dit que la rivière qui passait là s'appelle le Guadalope. Ben donc, ils vont essayer de fédérer les villages de la vallée du Guadalope, dont certains ont été collectivisés non pas par les anarchistes de la CNT, mais par les socialistes de l'UGT, qui participent à la collectivisation sans aucun problème. Et puis il y a, beaucoup plus au-dessus, le Conseil d'Aragon, qui est l'organisation horizontale, encore une fois, de l'Aragon, qui, de fait, fait sécession de la République bourgeoise, qui est celle qui est à Madrid. Tout ça va avoir des conséquences. Hein. Alors, à l'épreuve du temps aussi, parce que le temps, c'est la guerre, hein. Il faut penser toujours tout mettre en perspective. On a vu la mise en route du processus, c'est fin juillet 36. Il y a une interruption, début août 37. Début août 37, des troupes républicaines au commandement d'Enrique Lister, qui est un communiste bon train et qui commande la 11e division des armées de la République. Et plus exactement, parce qu'il y a des symboles qui comptent, le bataillon Vorochilov, eh bien, s'empare de la ville. Alors, la mythologie libertaire dit les staliniens contre les libertaires, ce qui est vrai. Même dans les mythologies, il y a du vrai. Seulement, ce n'est pas tout à fait ça, quand même. Ce n'est pas que ça, même s'ils sont les inspirateurs de la manœuvre. Ceux qui donnent les ordres, ben c'est la République. C'est le gouvernement de la République qui donne l'ordre de faire rentrer dans le rang tous ces gens-là qui sont... Ils sont où, ceux-là? Le Conseil d'Aragon, il ne répond qu'à sa propre volonté, à sa propre auto-organisation. La collectivité de Kalanda et toutes les autres, parce qu'il y en a des dizaines et des centaines, ben, elles répondent à leur propre logique. Et donc, l'État ne peut pas supporter ça. Et il envoie, comme d'habitude, parce qu'il a de quoi, il envoie des troupes mettre de l'ordre là-dedans. Ce qui veut dire qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, et il faudrait faire un petit saut en arrière. Aux élections de février 36, le Front populaire a gagné en Espagne. D'abord, il ne s'appelait pas Front populaire, il s'est appelé après Front populaire. Enfin bon, c'est une histoire un peu compliquée. Son programme n'est pas un programme de Front populaire, c'est autre chose. Peu importe. Ce qu'on appelle le Front populaire a gagné. Mais il a gagné sur une répartition des voix 49-51. Et encore, il y a des gens de droite là qui disent « Ah non, non, peut-être qu'on avait gagné, etc. » En gros, 50-50. Dans des régions comme l'Aragon, dans des régions comme la Catalogne, est-ce que la droite, les gens de droite, est-ce que les catholiques intégristes, est-ce que tous ces gens-là, les gens d'extrême droite, les fascistes, se sont évaporés ? Ben non, ils sont là. Seulement, dans le premier élan, ben, ils peuvent rien faire. Je vais vous donner un exemple qui est assez caractéristique. À Calanda, le pharmacien est plutôt fasciste. Et donc, quand on décide de créer la collectivité, eh bien, ils vont le voir, ils disent « Bon, voilà, tu as le choix. Ou tu pars, ou tu restes avec nous. Si tu restes avec nous, tu t'occupes de la pharmacie. Et tu as droit à ton assiette de pois chiches, comme les autres. » Eh bien, le type, qu'est-ce qu'il a choisi ? Ben, il a choisi de dire ben, « Je reste, dans le fond. » Et un peu partout, un nombre mais considérable de petits entrepreneurs, notamment dans des secteurs que je connais un petit peu, comme l'imprimerie, par exemple, les petits patrons sont restés. Ils étaient patrons, ils ne l'étaient plus. Ils étaient un parmi les autres. Souvent, ils avaient une capacité technique. Et, ben, ils étaient parmi les autres. Donc ça, c'est important. Mais à partir du moment où la République se donne d'une armée régulière, hiérarchisée, etc., on n'est plus dans les milices du début. Au moment où elle étend et développe énormément sa police, bah là, elle a des moyens d'intervenir. Et là, les gens de droite se disent « j'ai peut-être ma sortie ». Alors, on peut imaginer qu'il y en a certains qui ont été convaincus, qui ont eu la révélation, qui ont été convaincus des bienfaits de la collectivisation. Il y en a qui n'ont pas été convaincus. Et ceux-là, eh bien, là, vont se réveiller. Et ils vont trouver un parti d'accueil. Et c'est un paradoxe, mais c'est la réalité. Et ce parti d'accueil, c'est le Parti communiste espagnol. Il n'était rien au début de la guerre. On va être très généreux, il avait 10, 15, peut-être 25 000 adhérents, à côté du million qu'avait la CNT et du million qu'avait l'UGT, c'est dérisoire. Mais progressivement, il va beaucoup, beaucoup grandir dans le camp de la République. Et comment ? Puisque tous ceux qui avaient des biens à défendre, eh bien, vont adhérer au Parti communiste, qui, lui, va faire cette politique-là. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour faire cette politique-là. C'est obtenir l'aide de la France, en particulier, l'espèce de mythe. Hein, la France du Front populaire va nous aider, mais il ne faut pas non plus qu'on fasse peur aux Français. Bon, qu'on leur fasse peur ou pas, il n'en était plus question. L'effondrement du Front populaire en France et sa fin ultime, qui a été de voter les pleins pouvoirs à Pétain, en dit long hein, sur ce qu'était le Front populaire. Du coup, c'est un coup d'arrêt pour la collectivité. Mais la collectivité de Calanda n'est pas détruite. Elle se reconstitue. Mais elle ne se reconstitue plus avec 5000 personnes. Elle se reconstitue avec 2500 personnes. C'est quand même la moitié de la population qui va reprendre la collectivité. Alors les choses ont un peu changé. Hein. Les choses ont un peu changé. Ils ont mis un maire. Les troupes de Lister ont désigné un maire qui était sans doute un maire très modéré. Si modéré même que quand Franco est entré, il ne l'a pas destitué, il est resté maire. C'était donc un dangereux gauchiste, ce maire-là. 2500 personnes, c'est énorme. Il continue à l'intérieur de la collectivité, à ne pas faire usage de l'argent. Les règles restent les mêmes à l'intérieur. Mais à côté, il y a un secteur marchand. Et puis, il y a surtout l'administration de l'État qui veut mettre son nez dans, cette, dans ces affaires. Et alors, là, il faut sans arrêt négocier avec l'administration, etc., se justifier par le droit, parce que on ne voit que ce côté-là. Mais de l'autre côté, l'État a reconnu la collectivisation. Il a même fait un décret pour ça. Donc, se crée là une forme d'équilibre difficile, mais ils ont pu maintenir. Ils ont bénéficié aussi de la guerre, il faut bien le dire, parce que si l'État était très fort, il avait reconstitué ses forces répressives, du point de vue administratif, ça ne marchait pas très très bien, et il suffisait de... Il les embrouillait assez facilement, quoi. En particulier, ils devaient envoyer un représentant qu'ils appelaient interventor de l'État pour voir comment fonctionnait la collectivité. Il n'y en a jamais eu. Alors peut-être qu'il est venu, ils lui ont dit non, c'est par là-bas, on n'en sait rien, mais enfin, en tout cas, ça ne s'est pas fait. Il n'empêche que la... la collectivité va être liquidée. Et parce que la situation sur les fronts devient catastrophique, les franquistes, les armées franquistes avancent, et le 14 mars 1938, la collectivité décide de partir. Alors c'est 2500 personnes. Hein. Alors peut-être que les 2500 ne sont pas partis, mais un nombre considérable de membres de la collectivité sont partis. Peut-être 2000 personnes sont parties avec les troupeaux et les charrettes. Et ils vont aller en direction de Barcelone. Barcelone, qui à ce moment-là va devenir une ville qui accueille, il y a des chiffres qui courent, peut-être entre 100 et 200 000 réfugiés. Réfugiés de l'intérieur. Une partie de ceux qui après vont passer en France, hein, un petit peu plus tard. À Calanda, il y a plusieurs centaines de personnes tuées. Rappelons que les collectivistes sont partis, ils ne sont pas là. Hein. De la population qui reste, les franquistes vont tuer plusieurs centaines de personnes. Quelquefois, dans des conditions tragiques, une historienne, Mercedes Justa, là, qui s'est intéressée à la répression en Aragon, dit que c'est à Calanda qu'il y a eu probablement le... la répression la plus brutale. Et pourtant, il y en a eu hein, ailleurs. Hein. Le 29 mars, qui est un jour religieux de Calanda, pour l'église de Calanda, le 29 mars, 29 vieux républicains ont été fusillés. Et pour montrer que, comment sont ces gens, il y a un type qui s'appelle Galvé, ils l'ont tué en le frappant avec un sac rempli de tessons de bouteille. Alors voilà, l'histoire de Calanda. Alors vous allez dire, mais c'est pas ça la collectivisation, il y a eu plein d'autres choses. Ben oui, il y a eu plein d'autres choses. Mais plein d'autres choses, comment les aborder? Comment en aborder la totalité? Puisqu'à chaque endroit, les gens faisaient comme ils l'entendaient et comme ils le pouvaient, en fonction des circonstances, en fonction de leur niveau de radicalité, en fonction de mille choses. Il y a donc autant de collectivisation que de collectivité. Il n'y a pas une règle. Il y a bien une grande aspiration. C'est l'idée du communisme libertaire qui apparaît en Espagne en 1920 sous l'impulsion en particulier de quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, mais qui a été un des grands débatteurs de l'époque, qui s'appelait Eusebio Carbó. Pourquoi les années 20 bah parce qu'il y a des gens qui confisquent le communisme pour en faire un communisme d'État. Et alors donc, il faut se distinguer. On dit non, il y a un communisme d'État, c'est là-bas en URSS, ici. Ce sera, pour nous, ce sera le communisme libertaire. Il y a l'action pratique. Alors on connaît, il y a des noms qui... Casas Viejas ou Figol, ce sont des insurrections de villages ou de villes qui proclament le communisme libertaire. Alors ça ne dure pas, il y a une répression, des morts, etc. Mais c'est présent. À Calanda, il y a quelque chose de très curieux. Pour maintenir la pression sur les travailleurs agricoles, les patrons ne cultivent pas toutes les terres, toutes leurs terres. Et du coup, il y a une forme de chômage endémique parmi les ouvriers agricoles. Alors, que fait le syndicat? Parce que là, c'est, pour le coup, c'est le syndicat. Un beau jour, il dit, bah voilà, le terrain, là, qui appartient au marquis de Forton, il n'est pas cultivé. Alors, ils y vont, un bon groupe, avec des mulets, ils labourent le champ, puis après, ils vont voir le marquis de Forton, et lui disent, ça fait tant, le champ, là-bas, il est labouré. Alors, ça marche ou ça marche pas, c'est un jeu de pression, etc. Mais que toute peine mérite salaire, même dans leur logique, on a labouré, on veut être payé. Et ainsi de suite. Quoi. Il y a également, en plus de cette pratique, une réflexion qui est menée, en particulier, lui il est beaucoup plus connu, par Isaac Puente, qui est un médecin de la CNT, qui est un peu le théoricien de ce communisme libertaire. Et puis, il y a la pratique organisationnelle. Le début mai 1936, c'est-à-dire deux mois avant la Révolution, si on veut, le congrès de la CNT de Saragosse produit ce qu'ils appellent le concept confédéral du communisme libertaire, c'est-à-dire c'est une motion qui dit, voilà, le communisme libertaire, pour nous, c'est ça. Alors c'est des idées très générales, très vagues, etc. Il n'y a pas de recette, mais en tout cas c'est quelque chose qui s'est débattu et qui est en marche, donc qui est présent dans les esprits. Les situationnistes diront que c'est le plus beau programme révolutionnaire de l'histoire parce que c'est le seul qui a été appliqué deux mois après sa proclamation. Parce que des programmes révolutionnaires, il y en a en pagaille, et maintenant, les faits, c'est plus compliqué. Alors, il y a des choses plus profondes là-dedans. Pourquoi est-ce que ça marche? D'abord parce que c'est dans un monde qui est un monde rural, un monde agricole. Les communautés paysannes, dans toute l'Europe occidentale, c'est l'institution qui a duré, et de loin, le plus longtemps. Plus de 1000 ans de communautés paysannes. Ça a été évoqué ce matin. C'est quelque chose de très fort, ça vient de loin. Et ces communautés paysannes sont en lutte permanente contre les accapareurs, et contre les dominateurs. Ils sont en lutte permanente contre la féodalité, contre l'Église, contre l'État, contre le capital qui se crée. C'est toute la différence qu'il y a entre le sens et la dîme, ses impôts, etc. Et il y a un petit livre absolument magnifique qui s'appelle « Histoire de la révolte en Catalogne » qui raconte admirablement, alors c'est un historien très sérieux, hein, et donc c'est plein de références, etc., mais qui montre comment, même dans les révoltes modernes, et on ne peut pas s'empêcher de penser à des faits d'actualité, il y a dans l'arrière-fond ce qui s'est passé, cette culture des communautés paysannes. Dans les villes, là où les choses sont bien différentes, en Catalogne, mais pas seulement, il y a aussi des collectivisations, des grandes industries. Et là aussi, la communauté paysanne peut avoir son importance et son écho. Les militants de la CNT étaient appelés par les vrais Catalans, par la bourgeoisie catalane, los murcianos, c'est-à-dire ceux qui viennent d'ailleurs, là. Des Andalous, des immigrés andalous, des immigrés aragonais, etc. C'est eux qui ont fait l'industrie. Mais comme en France, les Bretons, etc., ont fait l'industrie parisienne. Il n'y a pas de doute. Les gens venaient pour travailler. Et donc, ils venaient avec quelques-unes de ces idées. Et puis, il y a autre chose de très important. C'est le mouvement coopératif. Le mouvement coopératif en Espagne a été, depuis le milieu du XIXe siècle, extrêmement puissant. Et on n'imagine pas, même la puissance qu'il a pu avoir. Il y a plein de gens qui vont à Barcelone. Si vous allez à Barcelone, allez voir la bibliothèque municipale du quartier de la Barceloneta. elle est dans le bâtiment d'une coopérative. Et vous verrez, c'est gigantesque. C'est presque un palais. Et c'était une coopérative. De la même manière, aujourd'hui encore, en Espagne, les coopératives sont terriblement puissantes. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vu, des électroménagers de marque Fagor, coopérative. Des autocars, alors ça on en voit, même des bus parisiens, sont marqués Irizar. Irizar, coopérative. C'est des coopératives du Pays Basque, coopératives d'une ville qui sont concentrées dans une ville qui s'appelle Mondragon, et elles ont, elles, été lancées par un secteur populaire de l'Église, l'Église de gauche, si on veut, mais ça existe toujours. Alors voilà, un peu, je vais m'arrêter là. Et puis, je dirai peut-être deux mots après, parce que vous remarquerez que je n'ai pas employé le terme autogestion. Oui. Ah, bah, il paraît qu'on est à la radio. Bon, c'est bien, alors.
Voilà, donc, on a évoqué les collectivisations aragonaises et éventuellement un peu barcelonaises. Tu nous diras un mot sur ou pas l'autogestion, et pourquoi le terme n'était pas employé. Mais avant, peut-être, avez-vous quelques remarques, quelques questions à adresser à Aimé ? Bon, pendant que les questions se génère, dit un mot sur autogestion ou pas autogestion.
Oui, alors d'abord parce que le mot n'existe pas à l'époque. Le mot n'existait pas à l'époque. Ce matin, on a dit qu'il apparaît en serbo-croate dans les années, fin des années 50, et en France, il apparaît dans les années 60. On parle donc d'autogestion. C'est un nouveau terme. Et il apporte beaucoup, il apporte surtout beaucoup de diversité. Beaucoup de diversité parce que le fait que ce soit un terme qui vienne de la Yougoslavie de Tito, on voit bien que le terme autogestion a été créé pour faire pièce un petit peu à la logique stalinienne. Mais à partir quand même d'une politique d'État. L'État yougoslave, Tito, c'était pas forcément quelqu'un de très, 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 très démocrate. En tout cas, c'était quelqu'un qui était partisan de la puissance de l'État. Et donc, inclure l'Espagne dans la logique autogestionnaire, c'était aussi montrer qu'il y avait d'autres options, étant entendu que l'Espagne révolutionnaire, elle n'existe pas. Je vous donne un petit exemple. Si vous avez vu, il s'est passé quand même quelque chose à Calanda, un peu, ne serait-ce que des morts, des trucs, des machins. Allez sur Wikipédia et tapez Calanda. Vous allez rire. Il n'y a rien. Mais rien. Pas un mot sur ce qui s'est passé pendant la période. Ce qui met un peu Bon, Wikipédia est ce que c'est. Est ce que c'est. Alors je reviens. Tu as des questions ?
Non, vas-y. Je vais y revenir en attendant que les questions naissent.
Bon, alors.
On me fera signe pour les questions.
D'accord. Je vais terminer sur.
Est-ce que vous avez rentré dans
le
cadre ?
Comment ?
Attends, il faut que tu prennes le micro si tu interviens parce que ça passe sur les ondes, c'est tout. Hein.
Non, je ne suis pas entré. Je suis entré en tant que spectateur, mais ce que je sais, c'est que dans Wikipédia, il y a une particularité, c'est que les municipalités et donc la politique a la main sur ce qu'il y a concernant leur ville. Il n'y a pas de liberté autour de ça. Donc, ça ne veut pas dire que sur Wikipédia, on ne parle pas de la collectivisation. Si, si, mais pas pour Calanda.
Thank you. J'attends, vas-y.
C'est bon là? Ah ouais. Oui, d'accord. J'ai pas l'habitude de parler au micro. Et bonjour à tous et merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. Et moi, je voulais demander une petite précision par rapport à ce que vous avez évoqué concernant la déclaration de confédéralisme du communisme libertaire. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de trouver ce document quelque part? Et si oui, un peu avoir des détails de quelle année il date, par qui ou par quel collectif ou par quels individus qui ont signé, voilà, pour pouvoir le trouver et l'étudier d'un peu plus près.
Oui, ça existe. Hein. Ça, c'est, ça a été édité, réédité, etc. Mais ça existe. Il n'est pas très, très difficile de le trouver. Les deux versions, celle généraliste, si on veut, de Isaac Puente, qui en est l'initiateur, et puis même la décision du congrès, la motion du congrès de Saragosse, qui se termine par une phrase assez intéressante, que tous ceux qui ont la force, qui s'en sentent la force, etc., améliorent cette œuvre. C'est-à-dire que c'est une motion qui reste ouverte, qui reste à améliorer, quoi.
Oui, je voulais compléter nos échanges. Alors, pour parler très brièvement d'un témoignage d'une initiative de collectivisation chez les pauvres, là, les murcianos, dont parlait la bourgeoisie catalane, en l'occurrence dans la région de Fuente Alamo, où on a le même processus spontané. L'Église utilisée comme espace de mise en commun des moyens. On arrive à acheter, par justement cette mutualisation des ressources, on arrive à acheter, alors là c'était des mules, un tracteur aussi. Et quand j'ai un petit peu interrogé sur place, pour savoir, pour les anciens ou les enfants d'anciens, ils m'ont dit deux choses. Ils m'ont dit, un, on a pu mettre en exploitation plus de terres, notamment des terres qui étaient laissées en jachère par les propriétaires. Premier élément de la réussite. Donc on a pu distribuer ensuite plus de biens. Or ça c'était important parce que la crainte c'était que ça soit une pénurie qui s'installe au nom de la collectivisation, notamment pour ceux qui n'étaient pas favorables. Donc le constat c'est qu'il y a eu un peu plus à distribuer. C'est la première chose. La deuxième chose qu'ils ont observée, c'est que il y a une sorte d'autorégulation du groupe qui se faisait, qu'on avait plus difficilement autrement. Par contre, l'expérience va vite s'effondrer. Avec l'arrivée des milliers de réfugiés d'Almeria, ceux qui fuyaient l'Andalousie, hein, et qui vont commencer à arriver sur la région. Et là, on n'arrive plus à faire face pour nourrir autant de bouches. Donc la pénurie va commencer à s'installer, et le système va être critiqué, alors que dans la première phase, il a pu distribuer plus. Ce qui fait que quand on veut, là pour le coup, la collectivisation a duré longtemps, puisque la région de Carthagène est tombée à la fin seulement. Mais quand on fait des études historiques sur la séquence des 3 années, il faut avoir à l'esprit cela, c'est-à-dire en fait l'arrivée des réfugiés. Deuxième chose, pourquoi il n'y a pas d'études? Mais parce qu'elles ne sont pas financées. C'est-à-dire que quand vous avez des étudiants qui s'intéressent à cela en histoire, il n'y a pas la ressource. Ils ne sont pas soutenus. Donc c'est devenu une histoire qui est tombée en désuétude, voire qui a été occultée, je peux même dire le mot. Et c'est pas faute que de la volonté de certains d'essayer de faire des choses, d'en faire ressortir. Alors après, évidemment, c'est des expériences rurales sur un petit niveau, sur une séquence de temps qui a été finalement, allez, un an et demi en réalité. Après, on parle pas de la pression de la guerre. C'est des expériences qui ont duré quand même, parce que malgré l'action des militaires, c'est pas le cas à la région de Murcie par rapport à l'Aragon, puisqu'il n'y avait pas le Conseil d'Aragon. Et on a laissé faire, en réalité, beaucoup. Donc la comparaison n'est pas raison. On ne peut pas complètement faire une analogie. Pour autant, ce qui est étonnant, c'est ça, c'est cette mémoire occultée. Voilà, c'était ça que je voulais apporter, plus témoignage que question.
Merci. Quelqu'un d'autre, peut-être? Derrière toi, tiens, Joël.
Merci. C'était une remarque par rapport à Wikipédia, et je pense que monsieur a un peu en partie répondu. C'est-à-dire que pour remplir Wikipédia, il faut des sources. Et effectivement, s'il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'articles, il n'y a pas de... si on ne peut pas étayer des propos sur cette période-là à partir de sources, effectivement, les articles vont pouvoir vont disparaître automatiquement. C'est une règle de base de Wikipédia. Ceci dit, ce qui m'intéresserait de savoir, et je regretterais de mon côté, c'est qu'on voit les discussions. Il y a un onglet qui permet d'aller regarder les discussions. Il faut voir si, à cet endroit-là, effectivement, il y a eu une sorte de caviardage ou la ville qui est intervenue pour effacer l'accès à certaines sources, s'il y en a. Voilà.
Oui. Alors, bon, les sources, il y en a. Hein. Il y en a. Le problème, c'est que c'est pour toutes les villes. Pour toutes les villes. C'est pas Calanda. C'est pour toutes les villes. Des villes où une ville où on a tué 300 personnes, 5000 habitants, où l'historienne dit, Mercedes Just dit que c'est le pourcentage le plus important par rapport à la population, etc. Bon, quand même, c'est une historienne qui l'écrit. Il y a une source. Non, c'est, je crois que c'est autre chose. Mais je serais heureux que ça change, hein, à vrai dire. Je serais heureux que ça change. Je crois que c'est un peu bloqué.
Mais ça c'est le constat qu'on a fait ce matin. Hein. C'est aussi bien les débuts de l'autogestion, dont le terme n'était pas utilisé pendant la Commune, qui a été occulté. C'est l'IP qu'on a oublié. C'est ce qui se passe chez les apatistes dont personne ne veut parler. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des initiatives de type autogestionnaire ou de collectivisation, les médias, l'État et quelquefois l'Église font tout pour que nous disparissions de l'histoire, quoi, quand les staliniens s'y mettent pas. Il est 14h26, on a encore 4 petites minutes pour une question ou éventuellement des remarques.
Bon, je termine alors ce que je voulais dire sur l'autogestion.
Vas-y, ouais.
Bon, alors, autogestion, il faut savoir être aussi autocritique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de l'autogestion un mantra qui résout tout, hein. Alors pourquoi je n'ai pas employé autogestion ? Alors d'abord parce que tout mot nouveau apporte des idées nouvelles, mais masque d'autres idées. Et en particulier, le mot autogestion, d'une certaine manière, a masqué collectivisation. Quand on parle de l'Espagne, on parle d'autogestion. Moi, hein, le premier. Et donc... autogestion. Au milieu des années 90, il y avait un copain, Loïc Debray, qui disait « Dans autogestion, ce que j'aime le moins, c'est le mot gestion. » Et dans Temps critique, une revue de l'automne 93, il écrivait « Il est urgent de rompre avec le consensus qui identifie la politique à une gestion. » ou à une autogestion dans le meilleur des cas. Ça, c'est pour gestion. Mais il y a aussi auto. Auto, c'est soi, c'est moi, c'est nous, c'est aussi l'ego. Hein. À Calanda, c'est une collectivité, elle est pour tous. Le pharmacien facho, il y a sa place. À condition qu'il cesse d'être un bourgeois, un notable. Il devient comme les autres, il y a sa place. Car la tentation est grande de périmétrer. C'est notre époque, ça. C'est-à-dire à définir un domaine où on n'a pas à supporter autrui. C'est-à-dire ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui ne pensent pas tout à fait comme nous, etc. Et ça, c'est dans l'autogestion aussi. La segmentation, la division, la guerre de tous contre tous, l'ubérisation, les salariés qui deviennent des collaborateurs, le télétravail, où c'est bien, on est dans un périmètre très bien, c'est une forme de mutation du capitalisme aussi. Et le capitalisme, on le sait, il n'a pas peur de grand-chose. Sans doute pas de la collectivisation, probablement pas non plus de l'autogestion.
Merci à toi.